Ce fut grâce aux chroniques de ces nonnes qu'ils purent remonter le cours du temps. Les abbés y conservèrent longtemps le livre des miracles. Il leur fut prêté par l'abbé de Moyenmoutier pour endiguer une épidémie. L'époque n'étant pas sûre, on préféra laisser le précieux manuscrit dans une abbaye fortement protégée, comme l'était Sénone. C'est là que la chronique du livre fut écrite. Elle racontait comment les abbés soignaient des maladies grâce aux vieux manuscrits. Les récits de miracles étaient nombreux à figurer dans les pages sacrées. La partie la plus importante du fameux livre, c'était sa couverture, faite dans le bois de la croix du Christ. Aucun manuscrit au monde ne pouvait avoir plus bel écrin. Aucun écrin au monde ne pouvait enfermer plus beau trésor. Aucun trésor au monde ne pouvait rivaliser avec le saint bois, possédant tous les pouvoirs de guérison. Les siècles passèrent, et le livre passa d'abbaye en abbaye. Il ne fut bientôt plus qu'une relique comme une autre, et il n'y eut plus de pages à ajouter au merveilleux manuscrit. Finalement, il fut mis au rang des trésors ordinaires, mais figurait encore à l'inventaire. Finalement, on l'oublia, jusqu'à ce qu'une abbesse le redécouvre dans l'abbaye de Remiremont, située à une vingtaine de kilomètres de la croix monastique, près de 700 ans après. C'est en recherchant d'anciens livres de prière que le hasard lui fit mettre la main sur ce manuscrit poussiéreux. L'ayant essuyé d'un mouchoir, elle vit qu'il était richement ornementé et enluminé. C'était un livre de grand prix. Pourquoi l'avoir laissé ainsi à la merci de l'oubli et des injures du temps? Elle entreprit de le lire, et à mesure qu'elle en tournait les pages, elle eut le sentiment que le bois se réchauffait au contact de sa paume et de son souffle. Elle eut l'impression que les pages vibraient doucement sous le son de sa voix, redonnant vie à des événements qui avaient eu lieu des siècles auparavant. Mais elle comprit que le livre qu'elle tenait dans ses mains était capable de miracles. En le lisant, les scènes qu'il décrivait prenaient vie, et elle sentait l'irradiation fourmiller le long de ses doigts et s'étendre à tous ses membres, et elle sentait une nouvelle énergie l'envahir. Elle comprit que c'était le pouvoir de guérison du livre qui opérait ainsi. Et elle comprit que le livre ne devait pas tomber entre de mauvaises mains, car déjà, les émeutes se transformaient en révolution. Sentant le danger, Louise Adélaïde de Bourbon-Condé cacha le livre là où nul n'irait le chercher. Elle prit le soin de concevoir un message menant à sa cachette et le fit graver en vers sur le dos d'un médaillon représentant l'œil de Dieu. Cela faisait 3 jours que Tontine se morfondait. Elle, qui n'était jamais restée enfermée plus de 2 jours, ruminait sa hargne. Tontine s'ennuyait. Malgré la bibliothèque et le poste de télévision qu'on lui avait prêté pour qu'elle cesse de harceler ses gardiens, elle s'ennuyait. Elle avait amadoué les 2 hommes chargés de sa surveillance, mais les échanges restaient au niveau du langage des signes. Ils ne parlaient pas un mot de français. Ne pouvant faire la conversation, chacun restait de son côté de la porte, que les gardiens ne prenaient plus la peine de verrouiller. C'est en les entendant rire que Tontine décida de réagir. Elle ouvrit la porte, décidée à profiter de leur bonne humeur, et vit un jeu de cartes sur leur petite table. Avec force gestes et onomatopée, elle leur fit comprendre qu'elle voulait jouer au poker avec eux. Ils rirent à gorge déployée, lui faisant le signe qui signifiait qu'ils allaient lui couper la gorge. Elle se moqua d'eux et, saisissant des billets dans son sac à main, leur montra son intention de soutenir les enchères. Elle passa une merveilleuse après-midi. Elle avait gagné leur montre et leur argent, et les 2 hommes avaient la mine contrariée. Puis, Tontine songea qu'il lui était plus profitable de les laisser gagner. À l'heure du dîner, les 2 larrons s'étaient enrichis raisonnablement et rayonnaient de fierté. Ils avaient pu se rendre compte de la force de leur adversaire et tirer gloire de l'avoir vaincu. Ce fut amicalement qu'ils souhaitèrent le bonsoir à la vieille dame. Tontine s'endormit satisfaite. Elle avait cimenté la confiance que ses gardiens commençaient à avoir en elle. Peut-être trouverait-elle l'occasion de leur fausser compagnie si leur vigilance se relâchait. Virgile ressassait les événements survenus depuis qu'il était rentré de ce fameux voyage à Trèves, et la certitude d'une trahison s'imposait. Comment les hommes de Basilevitch avaient-ils su qu'il irait à Épinal? Comment avaient-ils su que Tontine se rendrait chez Margot le soir de son enlèvement? À quelle heure? Et dans quelle voiture? Comment Basilevitch avait-il appris qu'Étienne et son équipe étaient sur les traces du Livre des Miracles? Il fallait que quelqu'un l'en ait informé. Cette détestable vérité lui était d'autant plus insupportable qu'il ne comptait autour de lui que des amis. Mais l'idée s'ancrait et ne lui laisserait plus de repos tant qu'il n'aurait pas démasqué le traître. Il décida d'en parler immédiatement à Étienne. Celui-ci avait réfléchi lui aussi sur les mêmes coïncidences et il se disait que depuis le début de leur enquête, la chance souriait trop aux Géorgiens. Comment procéder pour démasquer l'espion? Mais une fois identifié, fallait-il l'écarter ou tenter de l'utiliser? Il déciderait le moment venu. Dès maintenant, il devait resserrer les rangs et préparer un piège. Ils retrouvèrent le clan Grognard chez Margot, et Virgile fit part des soupçons qui lui étaient venus. Ce fut l'occasion d'un beau tumulte. C'était à qui tordrait le cou du coquin. Ce fut le vieux Grognard qui présida le conseil de guerre. Ils dressèrent la liste des espions possibles, en écartant Gabriel et les séminaristes, ainsi que ceux qui n'étaient intervenus qu'après l'enlèvement. Petit à petit, comme une peau de chagrin, le recensement se limita au premier à avoir connu l'existence du Livre des Miracles. Cela ne concernait que ceux déjà en scène, quand Virgile était allé à Épinal. Un collègue d'Étienne, ou l'un de ses étudiants, livrait des informations à Basilevitch. Ils décidèrent de ne rien laisser paraître et d'ouvrir les portes à tous ceux qui les rejoignaient en fin de journée, comme s'ils ne se doutaient de rien. Cette soirée-là fut semblable aux trois précédentes, depuis l'horrible méfait. Chacun arrivait, apportant son lot d'informations et les partageait à la cantonade. Un tel avait entendu dire que telle maison était un repère de bandits. Un autre avait trouvé dans un grimoire une allusion au trésor secret des abbayes lorraines. Il partageait les dernières trouvailles quand l'un des cousins Grognard surgit de la petite cabine de téléphone située derrière le comptoir, tel un diable de sa boîte. Les séminaristes avaient retrouvé le dernier livre de chroniques secrètes, celle de l'abbaye de Bonmoutier. C'est en farfouillant aux archives de la bibliothèque de Saint-Dié qu'il avait été retrouvé. Le manuscrit était en route. Un neveu Grognard l'apportait en toute hâte, faisant hurler les cylindres de sa moto. Il ne restait plus qu'à l'attendre. Dans 3 heures, tout au plus, il serait entre leurs mains. Virgile, sourire aux lèvres, fit un clin d'œil à Étienne. La Providence allait les servir. Laissant tout ce petit monde se restaurer dans une ambiance plus gaie que celle des derniers jours, il se retira avec son ami dans un coin de la salle. « Est-ce que tu penses la même chose que moi ?» demanda-t-il. « Ce manuscrit tombe à point nommé, et il sera notre cheval de Troie, non ?»« Étienne, je vois que tu n'as rien oublié de nos classiques. Oui, c'est bien à cela que je pense. Puisque personne ne sait encore de quoi parle ce livre, nous allons décider quoi lui faire raconter. Ne laissons personne d'autre que toi et moi le consulter. Ensuite, nous servirons un couplet de notre façon, différent à chacun des étudiants. » Nous verrons ce qui reviendra en écho. Que dis-tu de cette chanson-là? Qu'elle sonne à mon oreille comme une belle symphonie. Souhaitons qu'elle soit le requiem de Basilevitch. Il était fort tard lorsque l'unique exemplaire des chroniques de Bonmoutier leur fut remis. Virgile et Étienne avaient renvoyé leurs compagnons dans leur pénate et restaient seuls dans la salle silencieuse. Étienne consulta rapidement le manuscrit, parcourant d'un regard perçant les enluminures et les pages légèrement racornies. « Ce manuscrit-là est moins ancien que les autres, » fit-il remarquer. « Regarde, le papier est plus moderne. Je dirais que cet exemplaire ne date que du XVIIIe siècle. » C'est certainement la réplique de l'original. On ne savait pas restaurer comme aujourd'hui à cette époque. Il fallait recopier à l'identique. Je ne vois aucune difficulté dans l'étude de cet ouvrage. Je n'ai donc pas besoin des moyens d'université pour le projet que nous avons en tête. Je vais tout de même l'étudier. Peut-être y aura-t-il un indice sur la cachette que l'abbesse avait imaginée. Ouais, mais comment allons-nous piéger notre espion ? Demanda Virgile qui croulait sous la fatigue. Je pense que je vais faire comme si je voulais partager le travail. Je vais remettre à chacun une copie de quelques pages en lui demandant de les étudier. Ces quelques pages fourniront des éléments que seuls nous deux et notre cible connaîtront. Par exemple, un élément indiquant la cachette à un endroit qu'il reste à imaginer. Nous demanderons au grognard de surveiller les endroits que nous aurons définis. Lorsque le loup pointera son museau, nous saurons qui il est. Mais le contredit, Virgile. Si les étudiants s'échangent des informations, ton stratagème ne fonctionnera pas. Je vais dire à chacun d'entre eux que nous soupçonnons des fuites. À chacun, je dirai que je n'ai confiance qu'en lui, en lui faisant promettre de ne communiquer avec personne d'autre que moi. Je pense même que c'est un excellent moyen d'endormir toute méfiance. Je n'imaginais pas que la Sorbonne vous formait à l'intoxication. Nous sommes des enfants de cœur, reprit l'historien en riant. En comparaison des intrigues de la cour de France, nous sommes d'innocents bambins. Tu devrais étudier de plus près l'histoire des Borgia. Eux, ils étaient des orfèvres en la matière. Les Florentins ont toujours eu de l'appétit pour les cabales. N'oublie pas qu'ils nous en ont donné la Médicis. C'est vrai. Allez, tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Tu as une mine de papier mâché. Depuis quand n'as-tu pas dormi convenablement? Tu le sais bien. Depuis l'enlèvement de Tontine, je ne dors plus. Je m'assoupis et je me réveille en sursaut, craignant à chaque instant qu'on m'apporte une nouvelle horrible. Tontine est trop précieuse pour Basilevitch. Il ne lui fera pas de mal, j'en reste persuadé. Tu devrais les retrouver à Xuena. J'imagine son état d'esprit, être la fille d'un tel personnage, et te rencontrer dans les circonstances présentes alors qu'il t'a enlevé ta seule famille. La pauvre. Tu as raison, Étienne. Je vais la rejoindre. Le lendemain, enfin reposé, Virgile retrouva Étienne à la Sorbonne. Ce dernier avait truqué certaines pages du manuscrit de Bonmoutier, grâce à son photocopieur. Il avait fabriqué autant de chapitres à étudier qu'il y avait d'étudiants. Chacun aurait une version différente et découvrirait un lieu où reposait son trésor. Cela pouvait être la crypte d'une chapelle désaffectée, ou le sommet de Nom, où se trouvait un ancien temple romain. Un étudiant trouverait le livre des miracles au fond d'un vieux puits, alors qu'un autre le découvrirait dans le piédestal d'une statue, le pilier d'une église, une sacristie, ou le sarcophage d'un seigneur dans sa crypte, ou encore dans les ruines d'un château. Étienne était épuisé, mais il n'en laissait rien paraître. Il était ravi de jouer ce bon tour. Basilevitch en aurait pour son argent. Toutes les cachettes se situaient dans les Vosges. La famille Grognard surveillerait les pièges. Il ne restait plus qu'à remettre leurs copies aux étudiants, en leur disant qu'Étienne n'avait pas eu le temps de faire autre chose que photocopier le manuscrit. L'affaire fut vite menée, et ils s'égaillèrent comme un vol des tourneaux avec leurs copies sous le bras. Tous les livres de chroniques secrètes ayant été retrouvés, il n'y avait plus qu'à repérer les indications menant au livre des miracles. Les collègues d'Étienne travaillaient d'arrache-pied à décrypter les vieux manuscrits, mais sans grand succès. Bien sûr, ils apprenaient quantité de choses sur la vie monastique à l'époque médiévale. Ils trouvaient de nouveaux passages évoquant les prodiges dont le Saint-Livre était capable. Ils découvraient de nouvelles sources bibliographiques et des auteurs méconnus, mais n'arrivaient pas à situer où se dissimulait le livre des miracles. Virgile se rappela que M. Pascal, le bibliothécaire d'Épinal, lui avait demandé s'il s'intéressait aux autres abbayes. À ce point de leur recherche, rien ne prouvait que le livre fût encore dans l'un des monastères de la Croix-Lorraine. On savait qu'il était passé de l'un à l'autre, mais il pouvait avoir été caché ailleurs. Virgile fit part de ses réflexions à Étienne. « Tu as raison. Je suis bête de ne pas voir envisager d'autres possibilités. »« Dans ce cas, c'est une chance, » reprit Virgile. Si nous-mêmes ne l'avons pas imaginé, personne d'autre n'y aura pensé non plus, et le livre sera encore quelque part à attendre qu'on le découvre. J'en suis sûr, ne perdons plus de temps. Il faut reprendre ce que nous avions écarté jusqu'à présent. Je crois qu'il serait utile de se pencher sur les contes et légendes locales. On y trouve souvent l'origine de faits réels. Je vais prévenir les séminaristes et leur demander d'étudier les chroniques des autres abbayes. Demande aussi à Gassler de voir du côté des archives diocésaines. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir une allusion qui nous mette sur la voie. Les recherches reprirent avec entrain. La bibliothèque d'Épinal vit de nouveau les séminaristes prendre d'assaut les plus hautes rangées de manuscrits. Cette fois-ci, rien ne serait laissé de côté. De fond en comble, on rechercha le moindre document relatant le prêt d'une relique sacrée ou d'un objet précieux. Une ruche bourdonnante d'activité compulsait sans relâche tout ce qui semblait lié au livre des miracles. Une noria humaine se constitua, descendant les volumes d'un côté pour les remonter de l'autre une fois la lecture faite. On pouvait voir de jeunes prêtres, accrochés au plus haut rayonnage, en défiant les lois de la gravité qui énonçaient les titres en latin. D'autres se relayaient sans cesse, apportant des piles de livres sur les tables de travail. Là, une première équipe vérifiait systématiquement chaque livre et n'écartait que ceux qui s'avéraient inutiles. Un autre groupe étudiait scrupuleusement les ouvrages retenus et les rendait à la chaîne des porteurs si l'examen s'avérait négatif. Un dernier groupe était chargé de la lecture approfondie des textes retenus. Et ils trouvèrent. Dans le livre d'inventaire de l'abbaye de Remiremont, on trouva mention d'une relique déposée chez les chanoinesses pour qu'elles en assurent la sécurité pendant la guerre de 30 ans. Cela se passa sous l'abbatiat de Catherine de Lorraine, en 1639. On comprend que dans un pareil climat, les abbés aient confié la protection du saint manuscrit à la petite fille de la Médicis. Fidèle au sens politique de son aïeul, elle protégea les intérêts de son abbaye. Et le plus important, dissimula le précieux dépôt. Lorsque la guerre prit fin, les esprits étaient occupés par la reconstruction. On oublia que le fameux manuscrit avait été sorti de sa crypte. L'abbesse ignorait le contenu exact du coffret dont on lui avait confié la garde. Il était resté scellé. Le vieil abbé qui le lui avait envoyé était mort sans avoir révélé son secret. Le livre des miracles passa pour perdu. Seuls, les séminaristes qui venaient de déchiffrer l'inventaire de Remiremont avaient compris de quoi il s'agissait, plus de 354 ans après. Mais qu'était devenu le coffret? Les séminaristes étaient tout à la fois ravis et atterrés. Retrouver la trace du fameux relique, pour le perdre encore. Le sort était contre eux. Mais ils reprirent leur recherche avec acharnement. Pendant ce temps, Étienne mettait la dernière touche à sa stratégie en compagnie de Virgile. Ils mirent le père Grognard dans la confidence, et celui-ci choisit personnellement ceux qui partiraient dans les Vosges à surveiller leurs chausse-trappes. On sélectionna, parmi les plus jeunes et les plus vigoureux, ceux qui avaient l'upercute facile. Le soir même, chez Margot, on leur assigna leur destination, et ils prirent la route avant que quiconque sache de quoi ils retournaient. Dès le lendemain, on sut que le piège avait fonctionné. C'était d'ailleurs celui qu'Étienne préférait parmi tous ceux qu'il avait imaginés. Il avait situé le manuscrit au fond du puits dans les ruines de pierre percée. Cet ancien château surplombait Sénon. Détruit depuis plusieurs siècles, ce n'était plus qu'une halte pour promeneurs. Le puits avait été creusé dans le roc par la main de l'homme, sur une profondeur de 100 pieds, d'où le nom de pierre percée. Les deux grognards, envoyés pour surveiller les lieux, racontèrent ensuite s'être beaucoup amusés. Les hommes de main de Basilevitch firent une première reconnaissance et on les repéra immédiatement à leur accent. Le soir venu, on les vit scier la grille qui barrait le puits et descendre au fond avec des cordes. Les deux grognards coupèrent les filins, laissant les deux malfaiteurs tomber sur un amas de détritus. Ils devaient encore attendre que quelqu'un vienne les libérer. Les grognards riaient de bon cœur en se remémorant les gémissements des deux bandits. On savait maintenant qui était le bavard qui renseignait Basilevitch. Il fut immédiatement renvoyé et le commissaire Flamberge conseilla au jeune étourdi de se faire oublier durant un long moment. Voilà deux grands jours qu'il s'était enfin débarrassé de l'espion de Basilevitch et les recherches paraissaient moins pesantes. Le bandit les avait contactés une nouvelle fois en les menaçant de terribles représailles. Virgile lui avait rétorqué qu'il s'en tenait à ses directives. Au cours de la rapide conversation téléphonique, Virgile comprit que l'homme était totalement fou. Il commençait à tenir des propos incohérents, leur parlant de trône et de nouvel empire. Virgile put tout de même échanger quelques mots avec la vieille dame, qui lui assura qu'elle allait parfaitement bien. Rassuré sur ce point, il ne put que renouveler sa promesse de livrer le manuscrit dans les délais imposés. Ils se trouvaient tous chez Margot, où chaque soir depuis l'enlèvement se rejoignaient ceux qui participaient aux recherches. L'atmosphère y était plus détendue maintenant, que l'on se savait entre gens de confiance. Le commissaire Flamberge faisait quelques apparitions, mais son enquête piétinait. La police se montrait incapable de localiser Tontine. Seuls, Étienne et les séminaristes restaient optimistes. Ils avançaient à grands pas et avaient reconstitué l'histoire du Livre des Miracles. Ils étaient sûrs que c'était la dernière abbesse de Romy Raymond, la princesse de Condé, qui avait caché le trésor des abbayes. Ils découvrirent qu'elle fut la première d'une longue chaîne à détenir le médaillon de Tontine. Ce fut cette même Louise Adélaïde qui eut l'idée de laisser la Providence désigner celle qui prendrait sa succession. Et le bijou passa au cou des abbesses successives de l'ordre du Temple jusqu'à ce qu'ils viennent désigner Tontine. Ainsi, le trésor qu'il recherchait lui était lié par le truchement d'une invraisemblable suite de péripéties. Et la vieille dame était l'otage en échange de qui le fameux manuscrit serait livré. Où était ce fameux médaillon qui était peut-être la clé de tout ? Virgile se rappela alors que Tontine le portait toujours sous son chemisier. Durant ce temps, Axiona travaillait, mais elle n'arrivait plus à se concentrer à cause de la sonnerie constante du téléphone. De Guerlas, elle répondit. À l'autre bout de la ligne, une correspondante affolée la priait de venir le plus vite possible à l'université. Virgile y avait eu un accident, et le professeur Étienne avait demandé qu'on la prévienne. Cela semblait grave. Il n'y avait pas de temps à perdre. Sans réfléchir, Axiona saisit son sac à main à la volée, en raccrochant le combiné, et s'engouffra dans la cage d'escalier en claquant la porte de son appartement. Théodora observait l'entrée de l'immeuble de sa sœur depuis la voiture de Basilevitch. Elle était arrivée depuis quelques jours pour aider son père. Le Livre des Miracles était le dernier cadeau promis par son père, et maintenant elle le désirait plus que n'importe quoi. Assise sur la banquette arrière de la longue voiture noire, elle guettait l'arrivée de cette maudite sœur ennemie. À peine Axiona avait-elle dépassé le coin de la rue que la voiture de sa sœur arriva à sa hauteur, portière arrière ouverte, et que les hommes de Basilevitch la forçaient à y monter. « Qui êtes-vous ? Comme voulez-vous ? Tu ne t'en doutes pas ?» demanda Théodora. « Mon Dieu, je sais qui vous êtes. Que voulez-vous de moi ? Je n'ai pas ce que vous recherchez. Ce n'est pas le livre que je veux pour l'instant. » « C'est toi. À quoi vais-je vous servir ? Nous trouverons. Tiens-toi tranquille et il ne t'arrivera rien. Virgile n'a pas eu d'accident, n'est-ce pas ? C'est encore un de vos sales tours. » « La petite se sert aussi de sa cervelle. C'est si mignon. » Quelques instants plus tard, après avoir suivi un labyrinthe de rues, la voiture arriva devant une porte cochère et l'automobile s'enfonça sous un porche monumental. On fit descendre la jeune femme et on l'amena à l'intérieur. On lui fit traverser le grand hall, vers les communs, et on l'enferma dans un cellier. Cependant, l'enlèvement avait eu un témoin. L'un des mendiants qui fréquentait la cour de Margot avait assisté impuissant à la scène. Il suivit la voiture et alla prévenir à la taverne. L'antre de Basilevitch venait d'être découvert. Virgile fut prévenu immédiatement du nouveau drame qui venait de se jouer. Il contacta Étienne et ils se rendirent dans le quartier de Grenelle, où était la maison de Basilevitch. Impossible de pénétrer dans la demeure par la façade. De lourdes grilles barricadaient les ouvertures du rez-de-chaussée. Celle du premier étage était inaccessible et le portail d'entrée était trop massif. Un chat n'aurait pu se faufiler nulle part pour entrer. Ils firent lentement le tour du pâté de maison pour voir s'il n'y avait pas un passage ailleurs. Peine perdue. Puis, Étienne fut pris d'une inspiration. Un de ses étudiants demeurait par ici. Peut-être pourrait-il les aider. Il l'appela immédiatement. Par chance, le jeune homme en question habitait l'une des maisons qui communiquait avec celle des ravisseurs par un jardin commun. Ils firent un rapide état des lieux. Le jardin était un petit parc arboré avec des zones potagères cultivées par une famille d'originaux qui prêchait le retour à la nature. Les trois éclaireurs observèrent l'arrière de la maison de Basilevitch. Toutes les fenêtres étaient occultées par leurs volets. Mais y regarder de plus près, Virgile eut l'impression que l'une des persiennes du premier étage n'était pas accrochée. Il demanda à leur guide de s'en assurer. Puisqu'il habitait là, on ne le soupçonnerait pas d'espionner. Au bout de quelques instants, il revint sous le couvert des frondaisons qui les dissimulaient. « Il y a une paire de volets mal accrochés au premier étage, » leur confirma-t-il. « Et pour ceux du rez-de-chaussée, je crois qu'un tournevis un peu long suffirait à dégager la clenche pour les ouvrir. »« On ne peut pas vérifier cela en plein jour. Le jardin est éclairé la nuit ?»« Non, il paraît que cela perturbe le cycle de la nature. Enfin, c'est ce que disent les champignols. Ce sont eux qui ont installé les plantations et qui règnent sur le jardin. Pas de lumière la nuit. Pour une fois, une de leurs lubies va nous servir à quelque chose. » Et ils mirent à profit le reste de l'après-midi pour mettre au point leur plan d'invasion. Quelques élèves se joignirent à eux, et les deux grognards étaient venus en renfort avec les voitures. Ils attendaient tout silencieusement dans l'appartement, face à la maison où Tontine et Axuena étaient retenus. Les heures s'écoulaient lentement. Tout doucement, les bruits de circulation s'atténuèrent, et les lumières commencèrent à filtrer depuis les habitations, et la ville, petit à petit, s'endormit. Un à un, dans le plus grand silence, certains retenant même leur respiration, ils descendirent dans le jardin et s'avancèrent vers leur but. Étienne ouvrit le volet du bas avec une longue réglette de métal et le repoussa contre le mur. Virgile se colla au carreau pour vérifier dans quelle pièce ils allaient entrer. C'était une sorte de buanderie ou de cellier. Le grognard de Virgile l'ouvrit avec un diamant de vitrier. Ils pénétrèrent les uns derrière les autres dans le petit office et refermèrent les volets sur eux. L'oreille collée à la porte, Étienne auscultait la maison. Pas un bruit ne s'élevait. Il entr'ouvrit la porte et jeta un œil. Rien. Il ouvrit en grand et regarda rapidement le couloir dans les deux sens. Toujours rien. Il s'avança vers le hall d'entrée, suivi de près par la troupe. Il atteignit l'extrémité du corridor et on entendit un claquement de porte, puis un bruit de pas descendant l'escalier. Il s'accroupit, faisant signe aux autres de l'imiter. On n'entendait même plus le souffle des respirations, chacun bloquant ses poumons à s'en faire éclater les tympans. Les pas s'éloignèrent, laissant le silence retomber. Quelques souffles discrets fusèrent derrière Étienne. Il leur fit signe de retourner dans la buanderie. Là, ils eurent un rapide conciliabule. Quelle tactique adopter maintenant qu'ils étaient dans la place? Il fallait assommer le garde qui semblait seul. Cela ne devrait pas poser de problème. Le plus rapide fut désigné pour faire basculer la plante verte qui ornait le bout de la rampe d'escalier. Ce fut comme un bruit de tonnerre. La poussière provoquée par la chute de la potiche commençait à retomber lorsque le garde jaillit d'une pièce voisine. Apercevant une silhouette qui s'enfuyait, il tenta de la rattraper et il pénétra comme un bolide dans la buanderie où l'attendait le grognard de Tontine. Le colosse s'écroula sans se rendre compte de quoi que ce soit. Ils fouillèrent le rez-de-chaussée sans rencontrer âme qui vive, et au premier étage, toutes les pièces furent perquisitionnées sans plus de résultat. Au second, personne. Elle n'était pas ici. Avait-elle été emmenée ailleurs? Les avait-on déjà supprimées? Les caves! S'exclama l'un des étudiants. Toutes les maisons du quartier ont des caves immenses et certaines ont des soupiraux. Il faut aller voir en bas. » Ils dévalèrent l'escalier comme un seul homme et s'éparpillèrent pour trouver l'entrée des sous-sols. La porte qu'ils cherchaient se trouvait sous l'escalier. Marche après marche, ils s'enfoncèrent jusqu'à un couloir qui desservait un ensemble de caves à vin et de réserves. Virgile appela Axuena et l'on entendit une réponse étouffée parvenir du bout des souterrains. Sans perdre de temps, ils se précipitèrent sur une grosse porte avec un gros verrou extérieur. L'ouvrir fut l'affaire d'un battement de paupières, et Axuena se précipita dans les bras de Virgile. « Comment avez-vous fait pour me retrouver si vite ? » demanda-t-elle. « Grâce au petit soldat de Margot, » lui répondit Virgile. « Allez, ne perdons pas de temps. Allons-nous-en. Ils peuvent rentrer d'un moment à l'autre. » Tout en la guidant vers la sortie, il lui demanda si elle savait où se trouvait Tontine. « Elle est dans la maison, mais... « Je ne sais pas où exactement. » Ils fouillèrent à nouveau le moindre recoin. Peine perdue, on ne trouvait nulle trace de Tontine. Et la catastrophe se produisit. Ils étaient rassemblés dans le vestibule lorsque la porte s'ouvrit, laissant le passage à Basilevitch, accompagné de ses gardes et de sa fille. « Voyez-vous cela ? » s'exclama le géorgien. « Nous avons de la visite. Monsieur Virgile avec la fine fleur de l'université. Si je ne m'abuse. » La petite troupe se figea. Impulsivement, un étudiant jeta une plante à la tête d'un garde, qui s'écroula sans avoir fait un geste. Immédiatement, les autres se mirent à rouer de coups les gardes. Basilevitch se jeta dans la mêlée ainsi que sa fille, toute griffe dehors. Ils échangeaient les coups avec hargne. Le bouillonnement des bras et des jambes était indescriptible. Les plantes vertes volaient, suivies par les chaises et tout ce qu'ils trouvaient à portée de main. Un chandelier, lancé au hasard, frappa Théodora qui s'effondra. Dans la mêlée, Axuena fut assommée à son tour. Malgré leur fougue, les étudiants ne pouvaient l'emporter. Ils n'étaient que 6 combattants inexpérimentés contre la troupe de Basilevitch. Et la bataille se termina rapidement à son avantage. Les étudiants refluèrent vers la sortie, portant celle qu'ils pensaient être Axuena. Constantin Basilevitch s'approcha rapidement de la jeune femme effondrée au pied de l'escalier et se pencha sur elle pour la soutenir d'un bras robuste. Axuena sortit de sa torpeur, étonnée d'être étreinte par un inconnu. Elle n'eut pas le temps de protester. « Ce n'est rien, Théodora, juste un petit coup sur la tête, » dit Basilevitch. « Tu t'en remettras rapidement, tu n'as même pas saigné. Dans quelques minutes, tu iras mieux. » Elle préféra se taire. Si son père se rendait compte de son identité, quel serait son sort? Elle préférait ne pas le savoir pour l'instant. Si Basilevitch ne s'était pas rendu compte de la substitution des deux sœurs, elle pourrait peut-être se faire passer pour Théodora, le temps de retrouver Tontine. Au même moment, Virgile et ses compagnons s'éloignaient, emportant Théodora. Lorsqu'il emporta la jeune femme évanouie, Virgile était loin de se douter qu'il n'emmenait pas Axuena, mais sa jumelle. Quand celle-ci reprit ses esprits, elle fut examinée par le docteur Langlois qui soignait Tontine depuis des années. Celui-ci, constatant son état de choc nerveux, voulut lui injecter un sédatif pour lui permettre de se reposer. À la vue de la seringue, la jeune femme hurla de terreur et fut prise de convulsions. Il fallut la maintenir pour pouvoir procéder. Lorsque la jeune femme reposa enfin, le médecin prit Virgile en aparté. « Qu'est-il arrivé ?» Virgile lui fit le récit de leur tentative pour délivrer Tontine et de la bataille qui s'était ensuivie. Comment le coup a-t-il été porté ? S'enquit le praticien avec insistance. Virgile n'avait pas fait attention, trop occupé à rendre coup pour coup. Personne n'avait vu exactement ce qui était arrivé. On se souvenait l'avoir entendu crier et l'avoir vu tomber. C'était tout. « J'ai peur que ce ne soit grave, » reprit le médecin. « Ses réactions oculaires montrent un très violent traumatisme. » L'examen neurologique indique qu'il y aura des séquelles. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Virgile avec angoisse. « Pas grand-chose, j'en ai peur. Du repos, beaucoup de repos. Quelques antalgiques pour lutter contre les céphalées, du calme autour d'elle. Il faut surtout qu'elle se sente en sécurité. » Le lendemain, l'état de la jeune femme empira. Elle hurla lorsque Virgile s'approcha d'elle et elle lui griffa sauvagement le visage. Elle mordit l'infirmière qui voulait l'aider à faire sa toilette. Elle brisa tout ce qui était à portée de sa main. Et le pire fut d'entendre sans fin ses hurlements de démente. Tout au long de la matinée, son état empira. Il fallut se résoudre à l'attacher. Virgile errait dans le couloir, se reprochant amèrement d'avoir provoqué le destin. Le soir venu, le docteur Langlois décida de faire interner la jeune femme. À l'autre bout de Paris, Axuena jouait les amnésiques. Elle n'eut aucun mal à simuler une migraine. D'autant plus qu'elle avait reçu un coup sur la tête au cours de l'échauffourée avec les étudiants. Basilevitch tournait comme un ours au pied de son lit. Elle demanda qu'on la laisse se reposer. Quand elle fut seule, elle fit le bilan de sa situation. Elle se trouvait encore dans la tanière du fauve, mais cette fois-ci comme membre de la meute, et non pas en prisonnière. Il lui restait à trouver Tontine et à s'échapper. Elle attendit près d'une heure avant d'appeler un des gardiens et lui demander de l'accompagner voir la prisonnière. Comme il lui jetait un regard étonné, elle expliqua qu'après ce coup sur la tête, elle ne se sentait pas vaillante et avait besoin qu'on la soutienne. Le garde l'aida à descendre et ils prirent l'escalier des caves, où ils firent pivoter un pan de mur en manipulant une brique qui faisait saillie. Ils parcoururent encore quelques mètres et débouchèrent sur une petite pièce qui servait de salle de garde. Là, deux hommes montaient la garde en jouant aux cartes. Axuena leur dit qu'elle avait des questions à poser à leur prisonnière et entra. Elle referma la porte derrière elle, s'adossant contre le bois et reprit son souffle. Tontine leva le nez de son livre et observa sa visiteuse. « Je n'ai pas encore eu le plaisir de votre visite, » fit-elle. « J'aurais aimé venir plus vite, » reprit Axuena. « Mais Dieu que vous êtes difficile à voir. Virgile va être ravi que nous ayons enfin fait connaissance. Il m'a tellement parlé de vous. » « Vous connaissez mon petit neveu ? Qui êtes-vous ? Comme voulez-vous » « Laissez-moi m'asseoir, » reprit Axuena. « J'ai grand besoin d'un instant de repos. » Fidèle à ses habitudes, Tontine ne reprit pas l'initiative de la conversation, se contentant d'observer, comme dans une partie de poker. Axuena reprit leur échange. « Je suis une amie de Virgile, » expliqua-t-elle. « Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Monsieur de Saint-Just, pour qui je travaille parfois. Je suis ici pour vous libérer. »
J'accepterai de vous croire, à condition que vous me prouviez que vous êtes effectivement une amie de mon petit-neveu. »
Tontine ne doutait pas de la jeune femme. Son instinct lui disait qu'Axuena était une alliée, et son regard s'enflammait trop lorsqu'elle parlait de Virgile, pour qu'elle n'en soit pas amoureuse. Ce que Tontine voulait, c'était savoir à quel point les deux jeunes gens étaient proches. Elle était dévorée de curiosité.
« Vous voulez que je vous dise quelque chose que Virgile n'aurait confié qu'à un ami, c'est cela ?»«
Tout à fait. »«
Eh bien, je sais qu'il vous a juré de ne jamais prendre l'avion. » Je sais que le père Grognard lui racontait des histoires quand il était petit. Je sais que vous portez le médaillon de l'abbesse. »
À chaque affirmation, Tontine s'était approchée jusqu'à toucher Axuena. Et maintenant, la vieille dame la serrait contre son cœur.
« Quel grand bonheur de vous rencontrer, mon enfant. Mon petit doigt me dit que mon Virgile est entre de bonnes mains avec vous. »
« Je ferai tout pour le rendre heureux, » confia la jeune femme avec une rougeur aux joues.
« Je n'en doute pas, mais dans quel guépier êtes-vous venu vous fourrer? C'est de la folie. Ne pouviez-vous pas rester en sécurité plutôt que de prendre des risques pour moi?
Virgile serait trop malheureux s'il vous arrivait quelque chose.
Et puis, la situation est devenue terriblement compliquée. Voyez-vous, la clé qui mène au livre des miracles se trouve à votre cou. Si nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas trouver le manuscrit, et dans ce cas, je ne donne pas cher de votre vie. »
Si Basilevitch apprend que vous détenez le moyen de parvenir jusqu'au trésor, je ne donne pas non plus très cher de votre existence. Nous sommes dans une impasse. Il faut absolument vous faire sortir d'ici. Et il n'est pas question que cet odieux individu puisse s'emparer du livre des miracles.
Je ne comprends rien à votre histoire de livre des miracles. Mes visiteurs ont oublié de me tenir au courant des derniers événements. Expliquez-moi cela.
En quelques phrases, Axuena expliqua à Tontine de quoi il retournait.
« Je comprends tout maintenant, » dit la vieille dame. « Voilà pourquoi la supérieure de la confrérie du temple a voulu mettre ce médaillon à l'abri. Prenez-le avec vous pour le porter à Virgile. Moi, je peux attendre ici.
Impossible. Nous n'obtiendrons votre libération qu'en échange du livre. Et personne n'a envie de le donner à Basilevitch. Nous avons l'occasion de vous délivrer et de le conserver. Profitons-en. »
« Comment donc allez-vous faire ?»«
Je vais remonter et faire semblant d'être de plus en plus malade. » Puis, je demanderai aux gardes de m'accompagner chez un médecin. Là, je contacterai Virgile et le commissaire Flamberge. Je droguerai les gardes et je reviendrai vous délivrer de nuit. Enfin, si tout se passe comme je l'imagine.
Ça me semble un bon plan. Mais sauvez-vous, vous êtes depuis trop longtemps avec moi.
Bonne chance. Moi, je me tiens prête. Allez, courage.
Les choses se déroulèrent comme Axuena les avait envisagées. La jeune femme remonta à sa chambre et quelques instants plus tard, elle demanda aux hommes de l'accompagner chez un médecin, à quelques rues de là. Lorsqu'elle fut installée sur la table d'examen, elle murmura au docteur.
« Il faut absolument que je contacte la police. Les hommes qui m'accompagnent sont de dangereux malfaiteurs. Il faut que vous m'aidiez. »
Le médecin ne savait quelle attitude adopter. Mais puisque la jeune femme demandait la police, c'est qu'elle était dans son droit. De plus, ceux qui l'accompagnaient semblaient agressifs.
Il composa le numéro du commissariat de quartier et Axuena demanda le commissaire Flamberge. Elle lui fit le récit des derniers événements et demanda conseil. Le commissaire l'encouragea à poursuivre. Ils s'accordèrent sur les détails de l'opération et Axuena retourna chez son père avec les drogues fournies par le médecin. Elle savait comment leur administrer le puissant somnifère. Elle avait remarqué que les gardes buvaient du thé en abondance. Il lui suffisait de verser la fiole dans le samovar qui trônait au milieu de la cuisine. Il ne resterait plus qu'à attendre que la mixture fasse son effet. Le médecin lui avait assuré qu'elle avait de quoi endormir un régiment. Elle exécuta minutieusement son plan, tremblante de peur. Comble de panique, lorsqu'elle s'écarta du samovar après y avoir versé la potion, un garde lui en proposa une nouvelle tasse. Ses mains tremblaient tellement que cela renforça son apparence malade. L'attente fut longue. Elle s'y reprit à trois fois pour vérifier que tout fonctionnait comme prévu. Chaque fois, elle descendit en cuisine pour y prendre un morceau de pain ou y chercher un verre d'eau. Les hommes devaient être habitués à ce manège, car ils ne firent aucune réflexion. La nuit était avancée lorsqu'elle put enfin parcourir la demeure sans trouver quiconque éveillé. Ne perdant plus un instant, elle se rua vers les caves et délivra Tontine. Sortir de la maison ne leur prit guère plus de temps.
et à quelques pas de là, elles rejoignirent le commissaire Flamberge qui les attendait. Dès qu'elles furent en sécurité, au milieu de ses hommes, le commissaire fit donner l'assaut. Tontine voulut rentrer chez elle sans attendre, malgré l'impatience du commissaire qui attendait sa déposition. Il se heurta à sa coquetterie féminine. Il n'était question de rien tant qu'elle n'aurait pas pris un bain. Axuena souhaitait aussi un moment d'isolement pour se remettre des émotions de la nuit. Chacune rentra chez elle, escortée comme une souveraine en visite officielle. Virgile fut tiré de son lit par un grognard jovial qui sifflotait hardiment un air d'opéra tout en lui préparant un café. Ils se rendirent de concert rue Vivienne après avoir pêché Saint-Just. S'ils avaient cru pouvoir embrasser Tontine dès leur arrivée, il n'en fut rien. La vieille dame ménageait son effet, les laissant patienter au salon des miniatures, tandis qu'elle se préparait à apparaître en public, telle une star donnant une conférence de presse. Petit à petit, le salon s'emplissait des intimes venus aux nouvelles. Le suspense durait, et Virgile s'impatientait. Puis, enfin, Tontine apparut. Elle raconta sa captivité par le menu, tout en faisant servir un excellent et copieux petit déjeuner. Tous les assistants vécurent au fil de son récit la moindre réplique, chaque geste et chaque posture. La scène de la partie de poker contre ses geôliers faillit leur arracher des pleurs de rire. Décidément, il n'y avait que Tontine pour renverser ainsi les situations. Tous ses proches rassurés repartirent vaquer à leur quotidien. Ne restèrent que Virgile et ses compagnons, qui recherchaient le livre des miracles. Ils lui racontèrent à leur tour les péripéties de leur chasse au trésor. Étienne lui fit revivre l'épopée du livre des miracles, jusqu'au jour où il fut entre les mains de l'abbesse de Remiremont. Il lui raconta comment ils avaient trouvé tous ces détails dans le livre d'heures de la princesse, miraculeusement retrouvé à l'abbaye de Vaux-Allan, où la confrérie s'était installée après la guerre. Elle leur fit à son tour le récit de l'arrestation de la prieure de la confrérie du Temple, il y avait de cela si longtemps. Elle leur montra le médaillon représentant l'œil de Dieu. « Voyez, je ne l'ai jamais quitté. Depuis près de 60 ans, c'est le seul bijou que je porte. Il me rappelle qu'il faut une vigilance de chaque instant pour ne pas laisser le mal l'emporter sur le bien. « Veux-tu nous laisser l'examiner de près ?» lui demanda Virgile. « Pour la bonne cause, oui. » Et joignant le geste à la parole, elle lui remit le précieux pectoral. Il mesurait une 12 cm et représentait un triangle avec un œil au centre. Cela symbolisait la montée de l'âme, leur expliqua Saint-Just, qui avait souvent vu ce signe chez les Templiers et les francs-maçons. Au revers, il y avait une inscription profondément incrustée dans le métal, mais si petite qu'on peinait à la lire. Virgile prit une bonne loupe et la déchiffra. Au tympan à l'œil, je l'ai enfermé, près du Saint-Siège où je fus élevé. De Léon IX, empruntez la clé. Au plus grand buffet, elle est destinée. Plus à Notre-Dame que messe jouée, à un autre évangile, fut trouvé. Voici donc la clé de tout, s'exclama Saint-Just. Comment interpréter ces vers? Je crois qu'il faut envisager chaque élément à part et assembler ensuite le tout comme un puzzle, dit Étienne. « Dans ce cas, reprit Axuena, le mot tympan ne peut avoir que 2 sens. Le premier, le sens littéral, correspond à Louis. Nous savons que la princesse était mélomane. Cela doit avoir son importance. Et puis, le second, moins connu, est un terme d'architecture. Le tympan est la partie qui surplombe un porche, juste au-dessus d'un linteau de porte. On utilise surtout cette définition en architecture religieuse. » Peut-être que les 2 significations sont d'égale importance dans son message. Alors, poursuivit Virgile, il serait logique de rechercher le tympan d'une église, semblable à ce médaillon. Car il est bien écrit, au tympan à l'œil. Pour moi, il n'y a pas de doute, leur dit Étienne. À la suite du premier vers, il est gravé, près du Saint-Siège où je fus élevé. L'abbesse n'aurait pas parlé d'autre chose que de son siège abbatial. Que savons-nous d'un Léon IX? Demanda Tontine. Il doit s'agir du pape Léon IX, célèbre parce qu'il fut à l'origine du schisme entre catholiques et orthodoxes. N'oublie pas, reprit Saint-Just, qu'il était mélomane lui aussi. C'est peu connu, mais on a retrouvé certaines partitions qu'il a écrites pour des chants de messe. Il était alsacien et a bien connu les abbayes de la Croix-Lorraine et celle de Remiremont, car il a été l'artisan de sa reconstruction après un incendie, reprit Étienne. Ce doit être le personnage qu'évoque la princesse. Il faut trouver quelle clé elle a pu lui emprunter. C'est une métaphore, dit Tontine. Si l'abbesse était aussi mélomane que vous le dites, et si ce pape a composé des musiques de messe, alors ce qu'elle lui a emprunté ne peut être qu'une de ses partitions. N'a-t-elle pas écrit « De Léon IX, emprunter la clé » Mais oui, s'exclama Virgile, plus à Notre-Dame que messe jouée. La clé, c'est une musique de messe composée par Léon IX. Et qu'un autre évangile soit trouvé, ce ne peut être que le livre des miracles, dit Axiona. Les évangiles sont les récits de la vie de Jésus. Et pour ce que nous en savons, la couverture du manuscrit est faite dans le bois de la croix, le dernier objet terrestre qui était en contact avec lui. Et c'est ce qui rend cet objet miraculeux. Une musique de messe écrite par Léon IX nous permettra de trouver le manuscrit. Mais à quoi peut nous servir une partition ? Demanda Saint-Just. C'est peut-être un code, répondit Étienne. Ou bien, ce sont les paroles du chant de messe qui nous donneront la réponse. Et pour le reste du texte, quelle est sa signification ? Demanda Saint-Just. Difficile à dire, confia Étienne. Mais il faut tenir compte de l'esprit de l'époque. La dame était de haute naissance, et il était de bon goût de manier les jeux de mots. Les charades étaient très prisées à la cour Louis XVI. Et ce buffet auquel l'abbesse fait allusion, s'enquit Tontine, où peut-il être ? Il y avait des meubles de ce genre dans les abbayes avant la Révolution ? Bon, on y trouvait des lutrins, des prie-dieu, des consoles, lui dit Saint-Just. Il y avait aussi la chaire, et puis les sièges des stalles. Il n'y avait pas de buffet dans l'église elle-même. Il y en avait peut-être dans la partie couventine, mais pas dans la partie où étaient dites les messes. Je ne pense pas que ce soit cela qu'on doive chercher, reprit Étienne. La princesse a mis le manuscrit en sécurité. Elle ne l'aurait pas placé dans un simple meuble qui pouvait être emporté Dieu sait où. Quelle autre signification cela peut-il avoir ? Un buffet, c'est aussi un banquet, dit Tontine. Quel est le banquet dont pourrait parler une abbesse ? Poursuivit Saint-Just. Celui de la Seine, bien sûr. Il ne saurait y avoir de plus grand buffet que celui-là. Alors, dit Virgile, quelle est la représentation de la Seine à laquelle l'abbesse fait allusion ? Peut-être est-ce un vitrail, un tableau ou une sculpture ? Possible. Commençons par visiter les lieux où l'abbesse a séjourné. Je les ferai recenser par mes étudiants, dit Étienne. En attendant, nous devrions tous prendre un peu de repos. Ils rentrèrent chacun chez soi, escortés par les grognards qui ne voulaient pas les laisser sans protection tant que Basilevitch ne serait pas arrêté. Dès le milieu de l'après-midi suivant, Étienne les rassembla chez Tontine. « Nous connaissons maintenant tous les déplacements de la princesse Louise Adélaïde de Bourbon-Condé. Elle a été élevée par sa tante, la duchesse de Vermandois, qui était l'abbesse de Beaumont-les-Tours. Puis, à partir de ses 13 ans, elle a tenu ses appartements particuliers à l'abbaye de Pentemont, rue de Grenelle. « Je ne pense pas que le manuscrit soit caché là-bas, » dit Saint-Just. « Rappelez-vous qu'elle a écrit près du Saint-Siège où je fus élevé. L'abbaye de Beaumont-les-Tours est une possibilité, » reprit Étienne. « Mais ensuite, elle est devenue abbesse de Remiremont. Je vous rappelle que c'est dans cette abbaye que le manuscrit disparaît, si l'on en croit le livre d'inventaire. Je penche pour l'hypothèse de retrouver le livre des miracles là-bas. » « Cela semble l'endroit le plus indiqué, » abonda Virgile. « Pour ce que l'on en sait, la princesse de Condé s'y trouvait quand elle a découvert le manuscrit. » et décidé de le cacher. Pourquoi serait-elle allée ailleurs ? Il faut voir sur place, conclut Étienne. Grognard, préparez l'auto, dit Tontine. Nous partons voir les Vosges de plus près. Tu ne comptes tout de même pas venir avec nous, lui dit Virgile. Justement si, rétorqua Tontine. Tu ne penses pas que j'ai mérité d'être aux premières loges ? J'ai été enlevé à cause de ce manuscrit et de ce médaillon. J'ai quand même mérité qu'on me fasse une petite place. Tu as raison, lui répondit son petit-neveu. « Et de toute façon, je te connais. Tu n'en feras qu'à ta tête. Allez, prépare tes affaires. » Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'abbatiale de Remiremont, ils se sentirent projetés dans le passé. Rien n'y avait changé depuis des siècles. L'église défiait le temps. Ils cherchèrent dans les niches une représentation de la scène. Malheureusement, il n'y avait rien de tel. Ils se demandaient si ce voyage n'avait pas été une erreur. Lorsque Tontine s'écria « Regardez, au-dessus du portail d'entrée. » Ils se retournèrent pour regarder ce qu'elle leur montrait de la main. juste au-dessus du linteau de porte, la représentation exacte du médaillon de Tontine frappait la pierre de son sceau. « La montée de l'âme !» murmura Uxena. « La voici enfin !»«
Il faut regarder de plus près, » dit Saint-Just. « D'ici, on ne voit pas si la sculpture cache quelque chose. »
Grognard partit chercher une échelle pour atteindre le bas-relief, à 3 mètres de haut. Alors, ils entendirent un gloussement incongru dans cet endroit saint.
« Bien sûr, mais bien sûr qu'il y avait un buffet dans les églises !» s'exclama Uxena.
Et pour certaines, il était tellement imposant qu'il en faisait aussi la richesse. Tous la regardaient sans comprendre. Elle reprit.
« C'est évident, ça saute aux yeux, et vous ne voyez rien. Elle était maligne, cette abbesse. »
Il restait bouche bée, sans trouver de réponse à la question.
« Voyons, des chants de messe, de la musique et un buffet, cela ne vous dit rien ?»«
Les orgues !» s'exclamèrent-ils en chœur.
« Un buffet d'orgues !»«
Eh oui, et pas n'importe lesquels. L'abbesse a écrit « Au plus grand buffet, elle est destinée. Cette musique doit être jouée sur de grandes orgues. »
Ils suivirent le regard d'Axiona et découvrirent le gigantesque ensemble instrumental qui trônait face à la sacristie.
L'instant était solennel devant l'impressionnant tableau que formaient les tubes innombrables.
Grognard arriva, suivi d'un employé de mairie qui repeignait les grilles. Il avait réquisitionné hommes et échelles avec autorité.
Virgile grimpa lestement et observa minutieusement la sculpture.
« C'est ciselé très profondément, » dit-il.
« Je ne peux pas dire s'il y a une cachette ou non. Je vois une incrustation au centre de l'œil qui semble rajoutée parce qu'elle dépasse un peu. Tontine, prête-moi ton médaillon. Je veux vérifier quelque chose. »
Elle le lui tendit. Et il apposa le bijou contre son double de pierre. Les deux s'emboîtaient parfaitement. Alors, il tenta de faire tourner le médaillon comme une clé dans une serrure, dans un sens, puis dans l'autre.
Rien.
Il l'enfonça de toutes ses forces et il sentit un léger mouvement.
« Je crois que je l'ai. La sculpture bouge. »
Le préposé tenta d'intervenir, mais le regard de Grognard le cloua sur place.
Virgile recommença plusieurs fois. Et avec un dernier bout de pierre, retira le moellon.
Il redescendit en tenant un petit cylindre de plomb.
Il l'ouvrit et fit apparaître un parchemin.
Étienne l'examina.
C'est très vieux, et c'est encore en parfait état.
Il le déroula avec précaution, et ils purent contempler la partition que Léon IX avait composée, 1000 ans avant.
Il nous faut trouver un organiste capable de nous jouer cette composition, dit Virgile.
L'employé municipal put enfin parler.
« Je n'ai pas bien compris ce que vous faites là, » dit-il. « Mais si vous voulez faire jouer les grandes orgues, il faut que je demande à l'école de musique. C'est juste à côté. »«
Faites, faites, mon bon monsieur, » lui dit Tontine.
« Faites. Nous vous remercions de votre aide. Vous êtes fort aimable. » »«
Et pour le papier que vous avez trouvé, » commença-t-il.
Ils ne lui laissèrent pas le temps de finir sa phrase. D'une seule voix, ils répondirent.
« On le garde. »
Il se passa encore un moment avant que l'organiste arrive, mais elle acceptait d'interpréter la partition. C'était une magnifique musique. Mais lorsque les dernières notes résonnèrent doucement sous les ogives, rien ne se passa. Ils se regardèrent les uns les autres, tout déconfiés. Ils avaient imaginé que quelque chose arriverait. Ils ne pouvaient dire quoi, mais ils ne s'attendaient pas à ce silence, à ce vide.
Le bon sens d'Axiona reprit le dessus.
Le poème disait « Au plus grand buffet, elle est destinée. »
Ce ne sont peut-être pas les bonnes orgues.
« Quelles étaient les plus grandes orgues avant la Révolution ?» demanda Étienne à l'organiste.
« Celles de Notre-Dame de Paris, » répondit celle-ci.
« C'est évident !» s'écria Virgile. « L'abbesse a fait un jeu de mots. Plus à Notre-Dame que messe jouée. »
Ils reprirent le chemin de la capitale.
En rentrant de Remiremont, Virgile retrouva Gabriel qui s'était installé chez lui à son retour d'Épinal et lui demanda de l'aider à accéder aux grandes orgues de la cathédrale de Paris. Dès que l'heure le permit, Gabriel contacta l'évêché qui donna son autorisation. Lorsque Virgile entra dans la cathédrale, il ressentit immédiatement l'atmosphère sacrée qui se dégageait des pierres. Il comprit pourquoi l'abbesse de Remiremont avait caché ici le plus précieux de tous les trésors de la chrétienté. Il suivit Gabriel qui le mena vers la poterne desservant l'escalier des grandes orgues. C'est là qu'il trouverait la dernière clé menant au livre des miracles. Gabriel s'installa devant les pupitres.
« Je ne savais pas que tu jouais de l'orgue ?» s'étonna Virgile.
« Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, »
répondit Gabriel. En posant la partition sur le lutrin, face à lui, le jeune archéologue joua les premières mesures. Quelque chose de magique enveloppa l'espace. Malgré lui, Virgile fut envoûté par la beauté de la mélodie. Le Stabat Mater s'épanouissait, s'amplifiait. Ses notes étaient renvoyées à l'infini par les arches sacrées. Puis, ce fut le chant des hommes qui s'éleva, venu des profondeurs de la nef. Prêtres et séminaristes ajoutaient leur voix aux notes millénaires, rejoignant la musique en un accord parfait qui écrasait la laideur du monde. Virgile avait l'impression de planer doucement, d'être porté par la majesté du cantique. Les dernières notes s'égrenèrent dans un soupir et furent ponctuées par un claquement sec, suivi du raclement d'un tiroir en bois coulissant sur ses rails. Virgile vit une trappe entr'ouverte à la base du buffet qui protégeait les tubes. Il s'agenouilla et l'ouvrit davantage. Une plaque de bois, rehaussée d'or et de pierreries, occupait entièrement l'ingénieuse cachette. Le dessin qui figurait en son centre, la montée de l'âme, ne laissait aucun doute. Il venait de trouver le livre des miracles. La quête était finie. Il se releva doucement, tenant le manuscrit sacré dans ses bras, et redescendit l'escalier. En bas, les prêtres l'encerclèrent et formèrent une haie plus solide que la plus épaisse des murailles. À l'entrée de la cathédrale, Basilevitch, encadré de ses séides, contemplait le trésor qui restait désormais hors de sa portée. Levant le poing dans une dernière malédiction, il se retourna et prit la fuite. Virgile ressentait une immense satisfaction. Le magnifique volume serait remis au pape. Tout s'achevait. Il chercha Gabriel du regard, mais ne le trouva pas. Il devait être déjà à la poursuite d'un autre trésor pour le Vatican. Il sortit de la cathédrale et vit un homme d'âge moyen accourir vers lui, attiré par le livre comme par un aimant. « Ah, le voici ! C'est indéniablement le fameux manuscrit. J'en ai lu une description dans la grande bibliothèque vaticane. J'arrive trop tard, m'a-t-on dit. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider. L'avion qui m'a ramené du Pérou s'est abîmé en pleine forêt amazonienne. Il a fallu plusieurs jours pour nous retrouver et nous porter secours. »
« Mais qui êtes-vous » lui demanda Virgile.
« Ah, pardonnez-moi, je suis Gabriel Sauvignon. »
Lorsqu'il rentra chez lui, Virgile vit Chalimard trôner superbement au beau milieu de la carte d'Eusèbe de Césarée. L'une de ses pattes désignait le sigle du scribe. Sous le regard intemporel du sphinx noir, il se demanda s'il avait répondu à toutes les énigmes. « Qui était Gabriel ?»